Eh bien, bonjour. Je m'appelle Xavier Santoni. Je suis pédopsychanalyste. J'ai suivi mon cursus psychanalytique à l'Institut français de psychanalyse appliquée d'Avignon, ville dans laquelle j'exerce ma profession. De plus, je suis également partenaire et associée de Psychanalyse Magazine. Traiter des émotions de l'enfant sur le thème de l'abandon est un thème qui, pour moi, n'est pas facile. Pas facile parce que cela éveille en moi ce que l'on appelle en psychanalyse un affect. Freud entendait par affect un état émotionnel pouvant d'ailleurs avoir des manifestations physiques ou psychiques, voire même les deux, ayant pour origine un événement ancien, vécu de façon pénible ou agréable, et ce, de façon plus ou moins consciente. Ainsi, en ce qui me concerne, le sujet de l'abandon est quelque chose qui, dirons-nous, m'affecte tout particulièrement. J'ai choisi aujourd'hui d'analyser les processus abandonniques liés à l'enfant par le biais de la psychogénéalogie, au travers de mon histoire familiale personnelle. La psychogénéalogie se veut d'essayer de comprendre un chemin de vie à la lumière de l'héritage familial inconscient transgénérationnel. Alors mon histoire est la suivante. Lorsque j'avais 5 ans et demi, alors que je grandissais dans une famille dite traditionnelle, avec mes deux parents et une sœur de 8 ans, mon aînée, mon père, qui était médecin, alors qu'il revenait d'une consultation médicale et qu'il se rendait auprès d'une de mes cousines, qui s'apprêtait à mettre au monde son premier enfant, mon père donc est décédé brutalement dans un accident de voiture. Sous prétexte que ma mère devait s'organiser pour des raisons matérielles, tandis que ma sœur se voyait confier à notre grand-mère maternelle, j'ai été envoyée chez une tante et un oncle du côté paternel, lesquels vivaient à l'autre bout de la France, comparativement à l'endroit où nous habitions avec mes parents. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques heures, je me suis retrouvée avec mon père mort, séparée de ma mère et séparée de ma sœur. D'une situation qui se voulait provisoire, elle est devenue définitive, puisque dans les années qui ont suivi, je n'ai revu que quelques jours par an, puis quelques jours tous les 2 ou 3 ans, ma mère et ma sœur. Pour finir par ne plus revoir du tout ma mère, puisqu'à son tour, elle est décédée prématurément. Voilà ce qui a fait de moi ce que l'on appelle un enfant abandonné et qui a fait que je me suis inscrite dans ce que l'on a coutume de qualifier d'un profil abandonnique avec toute sa kyrielle de conséquences, lesquelles m'ont d'ailleurs amenée beaucoup plus tard à effectuer un travail analytique. Alors, face à un destin comme celui-là, peu ordinaire, le psychogénéalogiste va tout d'abord rechercher le symptôme transgénérationnel. En psychogénéalogie, le symptôme est ce que l'on appelle un invariant, c'est-à-dire une situation négative qui va se reproduire à intervalles plus ou moins réguliers. C'est ce que l'on appelle une compulsion de répétition. Cette situation peut être une pathologie, ou bien une particularité professionnelle, ou bien encore une cause de décès. Ce qui est important, c'est que l'invariant soit remarqué des deux côtés, aussi bien du côté de la jambe maternelle que du côté de la jambe paternelle. En effet, un individu est constitué à part entière des identifications successives à ses deux parents. Donc, dans mon histoire, on va observer que le symptôme transgénérationnel est un enfant mort de sexe masculin. En effet, du côté maternel, on remarque que ma grand-mère avait perdu un enfant donc garçon, à l'âge de quelques mois. Ma mère avait eu un frère qui lui-même avait perdu un garçon à l'âge de 17 ans, de façon accidentelle. Et enfin, mes parents, avant ma naissance, avaient eu un garçon qui est décédé quelques heures après sa naissance. Du côté paternel, on observe que mon grand-père paternel avait perdu sa mère au moment de sa naissance. On observe également que la sœur de mon père n'a jamais eu d'enfant et que le frère de mon père n'a eu que des filles. Alors, l'enfant mort, aussi bien que l'enfant absent, sont à considérer comme un symptôme d'enfant abandonné. En effet, l'enfant mort est un enfant qui s'est perçu inconsciemment abandonné. Même si au conscient, les parents vont s'occuper de leur enfant du mieux qu'ils peuvent, néanmoins, pour un inconscient, pour l'inconscient d'un enfant, lorsqu'il va mourir, c'est que ses parents ont été perçus incapacitaires à le sauver, incapacitaires à empêcher qu'il ne meure. C'est donc en ce sens que l'enfant mort est à considérer comme un enfant abandonné, au même titre que les couples qui n'ont pas d'enfants. On peut considérer que cette absence est synonyme d'une notion d'enfant qui a été abandonné. On a d'ailleurs coutume de dire quelquefois, lorsque de façon volontaire ou involontaire, des couples n'ont pas d'enfants, qu'ils ont abandonné, qu'ils ont renoncé donc au projet. Donc ici, on voit que la névrose familiale est une névrose d'abandon. Alors l'abandon est avant tout une séparation. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'une séparation va provoquer autant de souffrance? Il est bien évident qu'au conscient, un enfant n'est pas heureux lorsqu'il est séparé de ses parents, qu'il est triste lorsqu'il n'est pas avec eux. Mais que se passe-t-il au niveau inconscient? Pour un inconscient, toute séparation va le ramener à une angoisse que l'on appelle angoisse de dissociation. L'angoisse de dissociation est cette angoisse que tout individu va ressentir au moment de sa naissance, au moment où il va être séparé de sa mère pour la première fois. C'est le psychanalyste autrichien Otto Rank, qui fut l'un des premiers disciples de Freud, qui a largement étudié ce processus. Selon lui, la naissance est un véritable traumatisme psychique dont chacun d'entre nous ne se remettra jamais. À ce propos, Otto Rank a publié en 1924 un ouvrage traitant de ce traumatisme, le traumatisme de la naissance. Donc, si l'on en revient à mon histoire, afin de mieux comprendre ce qu'il s'est produit lors du décès de mon père, il est important de se rappeler deux éléments, l'un situé en amont, l'autre en aval. Le premier nous ramène donc au décès de ce frère que j'ai eu, donc le fils de mes parents, mort quelques heures après sa naissance. On peut dire que cet enfant n'a pas survécu à l'angoisse de dissociation, qu'il n'a pas réussi à surmonter l'angoisse. Par ailleurs, autre élément à retenir, c'est cet enfant qui allait naître et pour lequel mon père était en train de se déplacer. Alors en ce qui concerne donc cet enfant mort, mon père inconsciemment avait inévitablement culpabilisé. Culpabilisé ne serait-ce que par le fait qu'en tant que médecin, il se vivait impuissant face au fait qu'il n'avait pas été capable de sauver son fils, mais également au titre d'une rivalité oedipienne. Ce fils qui allait venir était son rival et il ne pouvait que culpabiliser d'avoir en quelque sorte éliminé le rival. Jusque-là, il avait pu gérer sa culpabilité et on va dire continuer à vivre au conscient à peu près normalement. Mais en fait, c'est donc le fait de se rendre donc auprès de sa nièce pour l'aider à mettre au monde cet enfant qui aura été l'élément déclencheur de son décès. En effet, il s'est mis en place pour lui inconsciemment une angoisse compte tenu de l'histoire qu'il avait vécue, c'est-à-dire une angoisse de mort quant à l'enfant à venir, à nouveau dans la crainte qu'il ne se reproduise le même schéma. Donc il a cherché à éviter, il a mis en place un évitement dans une situation de déplacement puisqu'il se trouvait dans une voiture, ce qui peut être tout à fait assimilé à un contenant contenu tel que l'enfant peut se situer lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Et à ce moment-là, l'inconscient a mis en place une très forte régression, c'est-à-dire que l'inconscient de mon père s'est retrouvé donc en amont de l'angoisse de dissociation dans cette situation intra-utérine. Mais comme cela est impossible, la régression est allée beaucoup plus loin, c'est-à-dire encore avant l'état intra-utérin, ce qui mène à un état anorganique et ce qui explique donc le fait que mon père soit mort dans cet accident. Voilà, il est à signaler également que l'enfant qui est donc né par la suite est décédé à l'âge de 5 ans et demi de maladie. Alors on voit que inconsciemment, lui aussi a culpabilisé en fait du décès de son oncle. C'est comme si pour son inconscient, il avait été responsable de la mort de son oncle, compte tenu que celui-ci était dans une voiture pour venir effectivement lui permettre de naître. Par ailleurs, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, on constate également que cet enfant est mort à l'âge où moi j'ai perdu mon père. Ce qui nous signale le fait qu'entre mon père et sa nièce s'était établi un lien oedipien très fort et qu'en fait cet enfant était un enfant issu fantasmatiquement d'une relation incestueuse et qu'il était devenu le fils de mon père. Et qu'en fait, par crainte, par identification de perdre à son tour son père, comme moi j'avais pu le faire, il a préféré faire l'oblation de son moi avant même que son père risque de mourir. Voilà, de cette manière, on constate combien les inconscients culpabilisent. Alors, lorsqu'un inconscient est culpabilisé, il ne va pas être bien et il va vouloir, d'une manière ou d'une autre, se déculpabiliser. Pour se déculpabiliser, un inconscient a une seule solution, c'est celle de s'infliger une punition. C'est ce que l'on appelle un mécanisme autopunitif. On appelle cela un besoin de punition, c'est une expression qui a été postulée par Freud et qui évoque le mécanisme suivant lequel certains individus vont systématiquement se mettre dans des situations douloureuses, dans des situations pénibles. En psychogénéalogie, on parle de retour périodique d'événements malheureux. C'est ce que l'on appelle également la névrose de destinée. Alors très souvent, les culpabilités s'étayent sur des rivalités oedipiennes. Si l'on reprend l'exemple de mon histoire, on peut faire le raisonnement suivant. Lorsque mon père est mort, j'étais en période oedipienne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vivais en tant que fille une grande histoire d'amour avec mon père. Donc, lorsque mon père est mort, mon inconscient a fantasmé que c'est parce que j'avais trop aimé papa qu'il en est mort. Donc, c'est de ma faute, je suis responsable de sa mort. Je vais donc chercher à me punir. Comme c'est de ma faute, j'ai privé maman de papa, donc à mon tour, je vais me priver de maman. On peut l'envisager également du côté de ma mère. Lorsque mon père est mort, l'inconscient de ma mère a forcément culpabilisé quant à son décès. Elle s'est vécue responsable de la mort de son mari. Alors, il peut y avoir eu des raisons importantes comme des raisons beaucoup plus anodines. Un inconscient peut culpabiliser sur de petites choses. Il a suffi par exemple que 2 ou 3 jours avant le décès de mon père, mes parents se soient disputés. Et pour un inconscient, c'est suffisant. Donc ma mère s'est vécue responsable du fait d'avoir privé ses filles de leur père. Donc à son tour, elle s'est privée de ses filles. C'est se faire à soi-même ce que l'on a fantasmé avoir fait aux autres. Il est bien évident que ce besoin de punition va dans les deux sens, puisque je vais me priver de l'autre, mais en même temps, je vais priver l'autre de moi. On voit donc dans ce processus que masochisme rime avec sadisme. C'est en ce sens que l'on a souvent coutume de dire que les névroses se complètent, c'est-à-dire qu'elles vont s'alimenter les unes aux autres, avec des rôles qui vont alterner bourreau-victime. Tantôt je suis un bourreau, tantôt je suis une victime. Alors lorsqu'on dit que les névroses se complètent, c'est pas tout à fait exact, en ce sens que ce qui va correspondre, c'est en fait le symptôme. Lorsque deux individus vont se rencontrer, ils ne vont pas se rencontrer par hasard, ils vont se rencontrer parce que inconsciemment, ils savent qu'ils ont le même symptôme, c'est-à-dire la même névrose familiale, on va dire en quelque sorte la même manifestation, mais l'histoire n'est pas la même. À chaque individu correspond une histoire qui est à l'origine de la névrose et du symptôme, mais ce ne sont pas les mêmes histoires. Alors, quel avenir peut-on envisager pour un enfant abandonné? Tout d'abord, on ne peut que constater les conséquences négatives qui en résultent, on va dire les dégâts qui sont mis en place. Alors, il y a tout d'abord inévitablement la mise en place d'une névrose d'abandon. Ce sont les psychanalystes Audier et Germaine Gex qui, les premiers, ont utilisé ce terme. Qu'est-ce que c'est qui caractérise une névrose d'abandon? Chez un abandonnique, on constate très fréquemment une angoisse permanente d'être abandonné, quelles que soient les circonstances, un besoin de sécurité affective très fort, avec également mise en place de vérifications permanentes pour s'assurer qu'il est véritablement capacitaire à être aimable. On peut avoir aussi des comportements surprenants, tels que des individus qui peuvent devenir soudainement odieux. Alors odieux, d'une part pour vérifier qu'ils sont bel et bien aimés, mais aussi dans le cas contraire où la personne à laquelle ils s'adressent va mettre en place une séparation de par leur attitude, leur permettre de constater qu'effectivement, ils s'inscrivent bel et bien dans une lignée de processus abandonniques. Et qu'en ce sens, c'est inévitable, ils vont là mettre en place une forme de, disons, de jouissance pathologique. Les abandonniques, très souvent, vont aussi avoir tendance à mettre en place des ruptures fréquentes, tant sur le plan affectif que social. Ils vont fréquemment préférer abandonner avant que de ne prendre le risque éventuel d'être eux-mêmes abandonnés. C'est le célèbre laisser avant d'être laissé. Dans leur avidité d'être aimé, Germaine Gex a évoqué ce terme de gloutonnerie affective. Alors, à ce propos, il me vient à l'esprit un exemple au travers de ma pratique qui témoigne effectivement la plus de l'émotion que peuvent vivre les enfants. J'ai eu en analyse une jeune patiente de 13 ans avec une histoire assez lourde. Elle avait perdu à 2 ans d'intervalle sa mère d'un accident cardiaque et puis sa sœur également d'un accident cardiaque suite à un effort sportif. Donc on voit qu'il s'agissait là, dans cette famille, véritablement d'une problématique de cœur. Alors lorsqu'elle m'a été amenée par son père, en fait, l'attitude du père était une attitude très démissionnaire. C'est-à-dire que cet homme, en fait, venait parce qu'il en avait assez d'avoir sa fille perturbée, en échec scolaire, avec des attitudes discutables, beaucoup d'agitation, beaucoup de dissipation. Et en fait, cet homme attendait de l'extérieur une solution miracle qui aurait pu en quelque sorte rendre sa fille comme elle était auparavant. Mais il ne savait pas l'entourer et essayer de comprendre sa problématique puisqu'il était même en train d'envisager de la placer dans une famille d'accueil. Alors effectivement, cet homme n'avait pas compris qu'en fait, ce dont sa fille avait besoin, c'était d'amour et non pas de faire comme il le faisait lui, en essayant vainement de chercher des structures spécialisées qui auraient pu, avec des méthodes bien précises, modifier le comportement de sa fille. Alors après à la névrose d'abandon, va intervenir le complexe d'infériorité. Disons que la névrose d'abandon va exacerber un complexe d'infériorité. Lorsque quelqu'un est abandonné, il va se vivre sans intérêt. Il va se dire qu'il a été abandonné effectivement parce qu'il ne vaut rien, voire même parce qu'il est nul. Donc va se mettre en place un sentiment de non-valeur, une mésestime de soi, pouvant même aller jusqu'à des processus d'auto-exclusion. C'est ce que l'on peut rencontrer de façon un peu moindre, mais malgré tout sur des processus abandonniques, lorsque quelquefois les enfants disent que en classe, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de copains, qu'ils sont tout seuls dans la cour de récréation, que personne ne joue avec eux. Alors ça me ramène aussi à un autre exemple d'un enfant de 12 ans qui lui aussi donc avait été soumis à un processus abandonnique. En effet, son père était parti. Sa mère, suite au départ donc du mari, avait mis en place un processus dépressif très important, suivi même de longs séjours en hospitalisation qui faisaient qu'elle ne pouvait plus s'occuper de ses enfants. Donc ce jeune patient avait été placé dans une famille d'accueil et indépendamment d'échecs scolaires, c'est un enfant qui ne prenait aucun soin de lui, qui ne voulait pas se laver, qui mettait des vêtements abîmés, sales. Et sa famille d'accueil avait beaucoup de difficultés à le convaincre de faire sa toilette. Donc on voit là, effectivement, ce complexe d'infériorité illustré par le fait qu'il estimait donc qu'il ne valait même pas la peine de prendre soin de lui. D'ailleurs, au sujet de cet enfant, compte tenu de son histoire, il avait mis en place un mécanisme de défense particulier. En effet, il avait des problèmes dyslexiques, avec tout particulièrement des confusions au niveau de certaines lettres, comme confusion entre le M, les N, les B ou les D. Et on attribuait cela à une façon qu'il avait de s'exprimer d'une manière nasillarde, comme quelqu'un qui a le nez bouché. Alors, des vérifications médicales avaient été faites auprès de spécialistes pour voir s'il n'y avait pas une pathologie telle qu'une sinusite ou une malformation quelconque, et rien n'avait été décelé. Et lors de sa prise en charge analytique, on avait pu évacuer le fait qu'en définitive, en ayant le nez bouché, il ne sentait rien. Et c'était sa manière à lui de s'être, en quelque sorte, anesthésié des souffrances et des douleurs, qu'il avait vécues. Alors, du complexe d'infériorité, on en arrive directement à la névrose d'échec. La névrose d'échec est un terme qui a été introduit par René Laforgue et qui signifie les limites des possibilités d'un sujet. En psychogénéalogie, on va parler de succession d'échecs, tant sur le plan affectif que social. Alors, ce peut être des divorces, des pertes d'emploi, des choses comme ça que l'on va observer de façon répétitive au sein d'une histoire familiale. Alors donc, en psychogénéalogie, dans un premier temps, il va s'agir de prendre conscience des mécanismes familiaux, on va dire de cette famille fantasmatique à laquelle un individu va s'identifier. Donc, on a repéré le symptôme transgénérationnel, on a identifié la névrose. Pardon. Dans un deuxième temps, le psychogénéalogiste va permettre au patient de se libérer justement de ses emprises familiales, de faire en sorte que cette histoire ne le concernant plus, lui permette d'accéder véritablement à ce que l'on appelle son vrai self. En effet, le symptôme ne sera jamais que celui qui est emprunté aux générations précédentes, à nos parents, eux-mêmes qui l'ont emprunté aux générations en amont. Ainsi, l'individu va se constituer véritablement une personnalité qui n'est pas la sienne, une sorte de vie par procuration. C'est ce que l'on appelle un faux self. Donc le travail analytique va consister justement à ce que l'individu puisse accéder véritablement à ce qu'il est. Chez l'abandonnique, il va lui falloir apprendre à s'aimer, à défaut justement d'avoir été aimé. Le travail analytique va mettre en place une reconstruction d'un moi fort au travers d'une renarcissisation. Résoudre son abandonnisme va consister à ne plus avoir besoin justement de l'autre. En analyse, si on pousse le travail beaucoup plus loin, on peut arriver jusqu'à une sublimation. La sublimation est un terme qui a été employé par Freud et qui consiste en la capacité qu'un individu va avoir à transformer des événements affectifs douloureux en réalisation sociale. C'est-à-dire qu'il va s'agir de donner sens à une histoire qui a fait souffrir, en acceptant cette histoire, donc en acceptant le symptôme transgénérationnel. En psychogénéalogie, on parle véritablement d'un défi. Alors, j'ai comme exemple celui d'une patiente, aujourd'hui adulte, qui avait été donc abandonnée lorsqu'elle était enfant. Sa mère était une personne très malade, donc en permanence hospitalisée. Et son père, lui, avait quitté donc le contexte familial pour des raisons professionnelles. Et elle avait été élevée par une grand-mère qu'elle aimait beaucoup, mais néanmoins avait beaucoup souffert de la séparation, surtout avec sa mère. Alors cette personne, par la suite, a fait une formation d'éducatrice spécialisée. Et aujourd'hui, elle a mis en place la création de ce que l'on appelle des lieux de vie. C'est-à-dire qu'elle s'occupe d'enfants, d'adolescents qui ont été, pour des raisons diverses, abandonnés par leur famille et vis-à-vis desquels donc elle essaie de faire en sorte que les choses soient mieux gérées. Voilà donc l'exemple d'une personne qui a utilisé sa propre souffrance, son propre symptôme, pour en faire une réalisation sociale. Alors, il est bien évident que le processus de sublimation est quelque chose qui est positif pour la personne qui le met en place, mais également pour les générations à venir. En ce sens que c'est donner la possibilité aux enfants qui vont venir par la suite de ne plus être soumis à cette sorte de pseudo-fatalité et d'avoir la possibilité de choisir, c'est-à-dire de choisir d'adhérer ou non à ce symptôme transgénérationnel, parce qu'il y aura toujours des individus qui seront plus permissifs que d'autres et qui, pour des raisons qui les concernent, vont pourquoi pas continuer à épouser, dirons-nous, une névrose familiale, mais d'autres pourront avoir le choix, eux, de ne pas le faire, ce qui met en place toute une liberté. Alors il est bien évident que ça ne va pas tout résoudre, effectivement, c'est pas une solution miracle, en ce sens que certains mettront en place des chemins de vie qui leur appartiendront et d'autres pas, mais l'aspect important est de savoir qu'ils en auront toute la liberté. Voilà, je pense avoir à peu près traité donc les points dont il était question. Si vous avez envie de me poser des questions, si ça suscite chez vous des interrogations.
Pas de questions sur un tel sujet, c'est surprenant. Ah, quand même.
Je voulais simplement savoir si le psychogénéalogiste est psychanalyste au départ, forcément, ou quel est le... Il est médecin, il est... Il a un travail... voilà, quel est son... Par quel chemin aboutit-il à ça ?
Alors pour être psychogénéalogiste, il faut donc avoir suivi, on va dire, des études appropriées en psychogénéalogie. En ce qui concerne la formation par elle-même, je ne suis pas directement concernée. Peut-être qu'il vaudrait mieux poser la question à Chantal Calatayud, qui elle-même forme au sein de son institut des psychogénéalogistes. Je pense qu'elle serait plus à même de vous répondre.
Oui, donc il y a, bien sûr, vous soulevez un problème important, c'est-à-dire qu'il y a à l'heure actuelle un flou total. Alors moi, je vais vous donner ma position donc, en tant que didacticienne. C'est un métier qui est extrêmement difficile et on ne voit pas comment on peut être psychogénéalogiste sans avoir une maîtrise parfaite des fonctionnements inconscients, qui sont complexes, bien sûr. Mais à aujourd'hui, bon, bien sûr, ça fait partie de tout ce qui touche aux psychothérapies, donc rien n'est exigé. Et je vois par exemple dans la région dans laquelle nous évoluons, dans le Vaucluse, nous avons assisté par exemple à des conférences en psychogénéalogie, conférences de gens célèbres et qui par exemple ont l'art de monter les psychogénéalogies à l'envers, à savoir commencer par la jambe paternelle. C'est un exemple, hein, il y en a d'autres. Or, l'enfant découvre d'abord sa mère. Par contre, il n'est pas utile d'être médecin, ça non. Mais à mon sens, il est impératif d'avoir une très grande connaissance donc, du fonctionnement psychique.
Je ne sais pas si ça peut aider, mais je me suis retrouvée au cours de ma pratique en tant que psychologue et psychothérapeute à finalement faire de la psychogénéalogie sans le savoir, enfin, un peu comme M. Jourdain, si je puis dire, s'est mis à faire de la prose. C'est un jour une de mes patientes qui m'a dit ce que vous faites, c'est de la psychogénéalogie. je crois qu'au cours de notre pratique, il y a aussi que l'on peut développer une capacité, en cours de sa pratique analytique, à s'interroger et à interroger son patient sur le fonctionnement familial. Et je crois aussi qu'il y a aussi une forte demande actuellement de comprendre ce qui se passe en famille. Donc, sans être obligatoirement psychogénéalogiste, on est amené en cours de sa pratique et avec le patient à évoquer la question de la répétition familiale et de l'histoire familiale.
Oui, malgré tout, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la psychogénéalogie découle de l'étude des névroses familiales et des névroses de destinée, donc l'origine est psychanalytique. Actuellement, il y a des dérives.
Pour ma part, je poserai une toute petite question. Quand vous dites ils avaient tué un enfant mort, est-ce que vous écrivez T-U ou E-U? Est-ce que c'est le verbe taire ou le verbe avoir? Bon, vous allez penser que je suis obsédée du langage, mais ça m'a interpellée.
Oui, mais votre question est intéressante, d'autant que là, dans l'exemple cité, ils avaient tué E-U, on va dire, mais...
Mais vous, vous pensiez E-U?
Oui, à ce moment-là, je pensais EU.
Mais vous l'avez prononcé tu avec un T très
oui.
appuyé. Et je me suis dit, ça, c'est
oui.
vraiment.
Oui,
ça
mais,
fait sens.
Mais vous avez raison, puisque dès l'instant où le symptôme va être l'enfant mort, ça signifie qu'en amont, c'est-à-dire que sur l'origine de l'enfant mort, l'enfant a été un enfant mort tu, effectivement, à la
presque
base.
Presque tué, quoi.
Oui. Oui, d'ailleurs, oui, parce que,
le cercle.
Oui, parce qu'on est sur la notion de symptôme, et le symptôme en psychanalyse est ce que l'on appelle le non-dit. C'est le non-dit, c'est ce qui est de l'ordre de l'inavouable, c'est un secret de famille. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver ce symptôme d'un enfant mort, mais à l'origine, c'est un enfant mort qui est mort dans des conditions qui ont été tues. Donc, pour qu'elle soit tue, ça signifie des conditions de mort telles qu'effectivement des morts provoquées. Oui, tout à fait.
Avoir, taire et tuer.
Oui, oui.
Bon, merci. Je restais avec une incertitude qui me gênait. Merci bien.
Oui, moi j'ai été un peu surprise parfois par les raccourcis et par cet aspect de vérité que vous vouliez donner aux choses, sachant que dans le domaine de la psychologie et de la psychanalyse, on est sans arrêt en questionnement, d'autant qu'il s'agissait là d'une vérité très, très personnelle qui aussi pour nous en tant qu'auditeurs... était peut-être difficile aussi à écouter, comme pour vous à la dire. Donc oui, je voulais que vous expliquiez un peu, parce que c'était parfois tellement réducteur que ça me heurtait un peu.
Oui, alors ce que vous dites est tout à fait possible. Bon, c'est vrai que ça vient aussi du fait qu'on dispose de peu de temps et qu'on essaie de condenser les... ce qui est à dire avec effectivement tous les inconvénients que ça présente, tels que vous le dites, de quelquefois donner l'impression de zapper des étapes. Oui, c'est tout à fait possible.
Pour des professionnels, à la limite, ça peut s'entendre, mais pour des gens qui ne seraient pas de la profession et qui participeraient, je ne sais pas, pour une première fois, ça peut faire aussi très très peur.
Oui. Il y a quelque chose...
Un enfant est mort, mon père l'a tué, ça peut être horriblement violent.
Oui, j'ai pas dit qu'il l'avait tué inconsciemment, dans le fantasme, hein, oui.
Voilà.
Oui, disons qu'on est quand même obligé de passer par des termes analytiques dès l'instant où il s'agit d'un sujet traitant la psychanalyse, où effectivement il y a cette notion d'inconscient, de fantasme, qui sont de toute façon incontournables.
Concernant les enfants nés sous X, comment, qui éventuellement sont amenés à faire une analyse, est-ce que la psychogénéalogie peut être appliquée quand on ne sait rien ? Voilà.
Oui, parce que au travers de... Oui, parce que au travers de déjà il va y avoir les éléments donc au présent que l'individu va relater, mais on va considérer le fait suivant, c'est que même si que ce soit un enfant ou un adulte, disons le patient effectivement comme vous le dites n'a pas de parents, n'a pas de famille, mais il n'empêche qu'il aura été recueilli dans une structure quelle qu'elle soit, que ce soit une structure d'État ou alors placé dans une famille, ou pourquoi pas, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans un lieu de vie. Mais le choix inconscient de l'endroit où il va se trouver ne sera pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, il va chercher de toute façon à rétablir cette famille fantasmatique. Et on va pouvoir tout à fait utiliser les parents de substitution comme étant le reflet de sa véritable famille. Donc on peut tout à fait travailler de la même manière.
Oui, pardon, je voudrais revenir sur les raccourcis un peu. Je pense que l'exercice que vous avez fait est effectivement très très difficile, puisque vous avez résumé votre propre analyse en quelques notions, donc c'est forcément très raccourci. Ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est si la psychogénéalogie dont vous nous parlez travaille sur des bases comme ça, de concepts relativement clairs, d'après ce que vous dites. Et vous avez dit à un moment donné, par exemple, pour prendre quelque chose d'un peu plus impersonnel, qu'une rencontre entre deux inconscients se basait toujours sur le même symptôme. Ce qui, moi, me paraît une notion, là aussi, très raccourcie. Alors, est-ce que ça fait partie... Est-ce que, effectivement, c'est ce que vous avez dit ou est-ce que c'est ce que j'ai entendu ? Est-ce que ça fait partie de notions que vous pouvez utiliser de cette façon si tranchée ? Ou bien est-ce que c'était là aussi quelque chose que vous avez utilisé dans ce récit d'histoire ? Mais je pense que ça peut nous donner une façon de comprendre la psychogénéalogie, peut-être sur une notion plus impersonnelle, pour savoir si effectivement on peut ou vous appliquer comme ça des concepts un peu généraux, enfin, ce qui moi m'a paru être un concept un peu général et un peu rapide. Voilà.
Oui, alors effectivement, il est, non seulement ça fait partie de la théorie, mais une théorie aussi qui s'appuie sur l'expérience, en ce sens que on ne va pas rencontrer quelqu'un par hasard. Effectivement, c'est comme dit la phrase, qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire que effectivement, on va se rencontrer parce que on a les mêmes symptômes, parce que effectivement, on a les mêmes névroses. Mais c'est surtout parce que pour un inconscient, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de rassurant. Il est toujours beaucoup plus facile de côtoyer quelqu'un qui va mieux inconsciemment nous comprendre, avec lesquels on va véritablement pouvoir partager pourquoi pas une pathologie identique. Je pense à des pathologies telles que des pathologies alcooliques, où effectivement les inconscients ne vont pas se rencontrer par hasard.
Bien sûr, non, attendez, enfin, je pense que effectivement les inconscients ne se rencontrent pas par hasard. Ce qui me gênait dans cette phrase, c'était l'idée que c'était le même symptôme. Et c'est ça que je trouve un petit peu rapide, que évidemment il y ait un dialogue inconscient et que les rencontres ne se fassent pas par hasard, ça peut être une base sur la psychanalyse. Est-ce que effectivement on peut généraliser le fait que c'est sur le même symptôme ? C'est là où ça me paraît un peu réducteur, et en tout cas, enfin moi, ça fait pas partie d'un schéma aussi clair.
Oui, déjà quand on dit même symptôme, c'est vrai que c'est restrictif, en ce sens que ça peut être à l'origine un symptôme qui est le même, mais qui va subir de toute façon des modifications et des déplacements. La forme sous laquelle ça va se présenter sera souvent très, très différente. au titre de déplacement de symptômes. Je pense à l'exemple d'une patiente. En fait, cette jeune femme, son père avait été abandonné, donc était issu de la DAS. Et cette jeune femme est venue consulter donc pour des problématiques essentiellement affectives, et dans lesquelles elle avait une difficulté, enfin, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle en était à plusieurs grossesses extra-utérines. Et on voit comment, à ce niveau-là, le symptôme s'était déplacé. C'est-à-dire qu'une grossesse extra-utérine, c'est un processus suivant lequel l'enfant est exclu. Il est exclu d'un système, quelque part, il est abandonné. Et on voyait qu'elle avait converti donc, le processus abandonnique sous cette forme pathologique. Donc il ne s'agit pas forcément de même symptôme de façon caricaturale. Mais c'est issu de la même névrose.
Un petit peu dans la même optique d'essayer de comprendre les raccourcis, vous avez un moment dit l'enfant mort ou l'enfant absent, volontaire ou involontaire dans une famille, doit être considéré comme abandonné. Je ne comprends pas. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous considérez qu'un enfant mort ou un enfant absent puisse être considéré comme abandonné. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît ?
Ce qui est important de préciser, c'est que lorsque je dis que l'enfant mort est à assimiler à un enfant abandonné, c'est au niveau du fantasme. C'est-à-dire qu'un enfant va mourir parce qu'il va inconsciemment se fantasmer abandonné par ses parents. C'est parce que, pour des raisons qui lui appartiennent, il va fantasmer que ses parents ne s'occupent pas de lui de la manière dont il voudrait qu'il s'occupe, qui va mettre en place une oblation de son moi. C'est un phénomène, c'est un processus autodestructeur qui fait suite à un fantasme lié à l'abandonnisme. Et c'est en ce sens qu'un enfant qui va mourir, en fait, pour son inconscient à lui, se vit abandonné. Alors, bien évidemment, à tort ou à raison. Quant à l'enfant absent, l'enfant absent est un enfant abandonné, mais abandonné au sens de projet d'enfant auquel on va renoncer. C'est en ce sens où il y a, comme je vous disais tout à l'heure, contrainte ou forcée, quelles qu'en soient les situations, à un moment donné, un couple qui n'a pas d'enfant va abandonner la possibilité d'avoir un enfant. Et s'il y a absence, l'absence ramène à la mort. On peut être absent par éloignement géographique, mais la mort relève aussi d'un processus d'absence. C'est en ce sens où j'ai associé ces deux éléments à l'enfant mort. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Pas tout à fait, mais bon, le lieu n'est pas à la polémique.
Si vous voulez rajouter quelque chose, vous allez-y, hein.
Bonjour, moi c'est juste pour comprendre aussi. Bon, je débute dans la profession un petit peu pédopsychiatrique. Vous avez dit que votre projet de soin, finalement, c'était de permettre aux patients de se libérer de ces emprises familiales, accession à un vrai self vis-à-vis à un faux self. Est-ce que le faux self, finalement, c'est un enfant qui est complètement pris dans un processus fantasmatique ?
Oui, oui, oui.
Est-ce que c'est ça ?
Oui, c'est véritablement l'inconscient qui va s'identifier à l'histoire, à une histoire familiale qui n'est pas la sienne.
Et à travers ça, donc, est-ce que les parents justement qui veulent adopter un enfant ne doivent pas faire le deuil aussi d'un enfant fantasmatique et pas projeter leur enfant fantasmatique sur l'enfant qu'ils vont adopter ?
Oui.
Est-ce que c'est pas aussi, avant d'adopter un enfant, faire aussi
Bien
ce
sûr.
Travail de deuil, puisqu'on voit aussi des pathologies qui se développent aussi à travers ça.
On existe tous dans un fantasme, là on prend des mots et on joue avec les mots, ça devient un peu n'importe quoi. Je veux dire, le fantasme, il est dans toute vie. Le problème est de savoir si c'est un fantasme névrotique ou pas, etc. Mais on va, c'est un
le fantasme est toujours névrotique par définition même.
Mais on est tous
puisqu'il ne s'inscrit pas dans le principe de réalité.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que ces oui. parents-là, justement, ils doivent laisser la possibilité à l'enfant, justement, d'être dans ce self, dans son self.
Bien sûr.
C'est ça que je voulais dire. Et voilà.
En théorie, dans une position idéale, effectivement, il serait souhaitable que tout parent qui s'apprête à adopter un enfant prenne soin au préalable de faire un travail sur eux pour effectivement se débarrasser de toutes leurs projections visant à avoir un enfant tel qu'ils l'imaginent. Parce qu'un enfant, dans n'importe quelle situation, dès l'instant où des parents attendent un enfant, ils vont de toute façon, avant même que cet enfant vienne au monde, le fantasmer, l'imaginer à tout point de vue, tant physique qu'intellectuel, comme pour eux-mêmes, leurs parents ont fantasmé qu'ils voulaient qu'ils soient. Donc effectivement, ça serait la position idéale. Oui.
Je voudrais réagir en tant que maman adoptive. En disant que ce processus n'est pas toujours facile à faire, et à mon avis pas souvent fait avant que l'enfant arrive, et que l'enfant peut être, lui, le facteur déclenchant de ce processus. Et l'enfant réparateur, et permettre aux parents adoptifs, justement, de se débarrasser de ce fantasme. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ma fille a été le réparateur, et le fantasme a disparu grâce à son arrivée. Donc je pense que le fait de le travail qu'il y a à faire sur ce... De se débarrasser de ce fantasme d'enfant idéal, je suis pas d'accord pour dire qu'il faut absolument le faire avant que l'enfant arrive, surtout que c'est pas très facile.
Non, on n'a pas dit qu'il fallait le faire absolument, mais que c'est vrai que c'était souhaitable. Mais bon, c'est pas quelque chose d'impératif de toute façon. Et comme vous le dites, effectivement, on peut soi-même, de façon beaucoup plus instinctive, prendre conscience au moment où on adopte un enfant de certaines choses qu'on n'a pas toujours mis à leur véritable place. Oui.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce qui a été dit, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. J'interviens donc en tant qu'à la fois enfant abandonné et thérapeute. Lorsque l'enfant né sous X va faire une recherche de type en psychogénéalogie, vous avez dit sans avoir fait une recherche sur sa propre famille naturelle, semble-t-il, c'est ce que j'ai compris, il va pouvoir faire une recherche à travers sa famille d'adoption. Alors je voudrais, s'il est possible, d'avoir quelques explications.
Oui, alors je pense avoir déjà un petit peu répondu à cette question. C'est-à-dire que, en fait, l'inconscient va reconstruire sa famille fantasmatique auprès des parents de substitution, quels qu'ils soient, ou de toutes ces personnes qui vont l'encadrer au travers de son statut d'abandon, quel que ce soit en institution, que ce soit en famille d'accueil, de toute façon, ça ne se sera pas produit au hasard. Donc, c'est en travaillant sur ces personnes-là, sur ces personnes qui entourent l'enfant, qu'on va pouvoir reconstituer et identifier la problématique familiale.
Et vous pensez qu'il est suffisant pour étayer, parce que lorsque vous avez décrit votre propre cheminement, c'est étayé quand même par des événements précis ?
Oui.
Donc lorsqu'on n'a pas d'événements précis, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment fort pour pouvoir travailler là-dessus ?
Oui, ça donne des résultats tout à fait aussi satisfaisants qu'au sein d'une famille d'origine, oui.
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé que l'enfant se construit sur les deux parents. Je crois que c'est vous qui avez commencé avec ça. Tout à l'heure, en entrée, oui. Vous avez dit que l'enfant se construisait à partir des deux parents.
Oui.
Ce qui est vrai. Il ne faudrait pas oublier que c'est une construction qui passe à la fois par une sorte de filiation institutionnelle, le nom, et aussi une filiation narcissique. Donc, quand ces enfants dont on vient de parler atterrissent, entre guillemets, dans des familles, on va appeler ça d'accueil ou autre, le travail... Je ne vais pas parler de travail analytique, s'il peut se faire avec un professionnel, à mon avis, devrait porter aussi sur cette construction qui s'est fait ou qui ne s'est pas fait, qui peut s'être fait à partir d'une simple image. Par exemple, un enfant qui aurait un père qui serait joueur, qui serait alcoolique ou qui répéterait un abandon. Je veux dire, c'est un travail de base. Tout à l'heure, vous avez parlé de travail analytique qui porterait, si j'ai bien compris, sur un renforcement du moi, une reconstruction narcissique. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas oublié, cette partie. Certains courants appellent ça une loyauté mammifère, une loyauté aux parents. Donc c'est un des facteurs, à mon avis, qui est déterminant dans la reconstruction d'un enfant. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Et le deuxième, c'était tout simplement sur les symptômes qui correspondraient. Moi, j'entends plus comme des scénarios de vie qui permettraient à deux personnes qui se rencontrent de voir qu'avec tel autre, on va pouvoir rejouer ce qui a posé problème, trouver une autre sortie. Ça, c'est le fantasme, hein, trouver une autre sortie. En général, on sait que c'est une répétition, mais c'est pas, j'entends pas au sens où deux personnes abandonnées se rencontreraient pour, comme on se comprend bien, je crois que c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire une personne qui a été abandonnée va chercher une personne qui va rejouer, qui va lui permettre d'être abandonnée à nouveau, ou de rejouer la scène pour trouver une autre sortie, une autre compréhension. Ouais, c'est ce que, donc à partir de ça... ça rejoint ce que vous dites, mais il me semblait important pour moi, du moins, de clarifier ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des symptômes qui sont les mêmes, mais des gens qui se rencontrent effectivement pas par hasard, mais pour rejouer une scène où l'autre est un acteur privilégié, mais qui n'est... Le truc le plus courant, c'est par exemple les enfants battus vont s'identifier par exemple à un agresseur quand ils sont gosses et vont rechercher une personne qui va leur permettre de rejouer ça. Donc ils ne vont pas chercher une personne qui sera elle-même enfant battu, mais plutôt, ou alors un enfant battu qui lui-même passera agresseur. Voilà.
Alors, votre question est très, très complète. Ça serait très long à développer tous les points que vous avez évoqués. Est-ce que vous voulez que je réponde à un point en particulier? Parce que alors là, ça serait excessivement long. Là, on a plus tellement de temps. Oui, en ce sens que, si vous voulez, de par l'abandonnisme, donc le sujet est soumis à un complexe d'infériorité, à une dévalorisation de lui, l'individu va se vivre donc dire complètement nul parce qu'il a été abandonné, on m'a laissé parce que je ne vaux rien. Donc, dans le travail analytique, ça va consister essentiellement à permettre une renarcissisation et à la reconstruction d'un moi fort, puisque avant le travail, c'est un moi tout à fait défaillant, de par le fait qu'il est fantasmé, qu'on ne lui portait aucun intérêt, qu'on l'avait abandonné parce qu'il ne valait rien. C'est en ce sens où le travail analytique vise effectivement à une renarcissisation. Voilà, on me signale que le temps est écoulé.